France Culture.
Les nuits de France Culture.
Jacques Roubaud n'est pas un poète solitaire qui cultive son jardin reclus dans le secret d'une vie d'ermite. Au contraire, c'est en travaillant au sein de structures collectives plus ou moins connues, dans une dynamique de l'échange et grâce à ses nombreuses et puissantes amitiés, que Jacques Roubaud forge ses itinéraires poétiques et intellectuels. Si sa participation à l'Oulipo est bien connue, on mentionne beaucoup moins la revue Change, qu'il fonde avec Jean-Pierre Faye et Maurice Roche, après une scission de la revue telle qu'elle. Leur ambition est plus grande. Ils veulent étendre le champ de la revue bien au-delà de la littérature et de la linguistique structurale, excités notamment par les perspectives offertes par la linguistique générative de Chomsky. Change est en effet une revue protéiforme, qui veut rapprocher la littérature et les outils scientifiques, afin de poser les bases d'une approche nouvelle, idéale sans doute, de la langue et du vers. Une aventure intellectuelle et humaine donc que raconte Jacques Roubaud au micro de Christian Rosset, dans ce troisième de 5 à voix nue. Une émission réalisée par Bruno Sourcy est diffusée pour la première fois le 3 mai 2000 sur France Culture.
Jacques Roubaud, vous avez participé à de nombreux collectifs. Vous avez déjà cité lors de nos deux précédents entretiens l'Oulipo. L'Oulipo existe toujours et je crois plus que jamais nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Vous nous avez parlé aussi d'une certaine manière de votre distance, de la distance que vous aviez prise par rapport à notre groupe mythique qui sont les surréalistes. Et vous nous avez dit aussi que l'idée de table rase et d'avant-garde ne vous concernait pas. Néanmoins, vous avez fait partie de deux collectifs assez importants qui ont pu apparaître à un moment comme avant-gardistes ou néo-avant-gardistes, qui ont été Action Poétique et surtout Change. Je crois qu'on a un petit peu oublié ce qu'est Change aujourd'hui et je vais peut-être vous demander de nous le rappeler parce que à la fin des années 60, c'est quand même une entreprise qui a beaucoup d'ambition.
Oui, le groupe de Change est né essentiellement de l'idée de son fondateur, Jean-Pierre Faye, et l'intention, dans la mesure où je peux la saisir vraiment après tant d'années, était d'une part ne pas faire comme le groupe d'avant-garde dominant qui était tel quel, et d'autre part, ça c'est le point de négation, de résistance à quelque chose qui domine et avec lequel on n'est pas d'accord, et d'autre part de mettre en jeu un certain nombre d'outils conceptuels qui n'étaient pas dans le champ de la littérature, mais qui pouvaient apporter quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, dans le cas de la linguistique, aller au-delà de la linguistique structurale en ayant recours au modèle de la linguistique générative de Noam Chomsky. Par ailleurs, utiliser les résultats et les concepts les plus intéressants des avant-gardes russes des années 20, enfin et disons la théorie du montage de Eisenstein, des choses comme ça. Donc il y avait un certain nombre d'intentions de ce type et qui, au fond, proposaient aussi une vue relativement d'ensemble du champ conceptuel et du champ littéraire, unissant à la fois la poésie, la narration et un certain nombre d'outils scientifiques. Bon, la linguistique, hein, appuyer sur la linguistique, mais pas sur la linguistique structurale.
Il faut dire d'ailleurs que Jean-Pierre Faye avait fait partie de ce groupe tel quel, dont tout le monde ne connaît pas forcément tel quel aujourd'hui, qui avait été essentiellement dirigé, si on peut dire, par Philippe Sollers. Et ce qui est très frappant dans toutes ces avant-gardes, c'est qu'il y avait à la fois donc un lieu de production, à l'époque on aurait dit production, de poésie, de récits, de narration, faites par des personnes qui ont des prétentions, si je puis dire, de réfléchir sur cette pratique, et de manière même relativement scientifique, ce qui est vrai pour certains, mais pas forcément pour tous. Mais il y a eu un grand engouement pour la théorie à cette époque.
Oui, il y a eu un grand engouement pour la théorie, peut-être pas sous des formes tout à fait réfléchies et véritablement adéquates à l'intention. Et donc, le groupe Change, moi, si j'ai fait partie du groupe Change, c'était un peu dans l'idée qu'il était intéressant d'aller regarder du côté d'un certain nombre d'outils scientifiques mais qu'il ne fallait pas le faire de façon irréfléchie. Bon, donc c'était mon intention principale, et c'est pour ça que j'ai participé à ce groupe. Et je dois dire, bon, en regardant les choses avec la distance du temps, au moins dans les premiers numéros de Change, il y a des choses tout à fait intéressantes qui restent tout à fait intéressantes aujourd'hui.
Et notamment dans le premier numéro, vous traitez justement de la poésie japonaise classique.
Je ne sais pas si c'est le premier, mais enfin bon,
c'est
un des premiers. Oui, parce que un des sous-produits de mon immersion pendant assez longtemps dans la poésie japonaise ancienne a été la découverte. Je ne sais pas si elle est admise par tous les chercheurs dans le domaine, mais enfin bon, celui qui a présenté cette idée-là semble quand même une autorité, puisque je vois qu'il vient de publier une grande histoire, il est en train de publier une grande histoire de la littérature japonaise. Donc c'est pas seulement un chercheur isolé qui avait donné quelque chose qui, moi, m'a beaucoup influencé. Il avait, au fond, l'idée que l'ensemble des grandes publications de poésie en tanka, de poésie japonaise des années 1000 à 1300, ce qu'on appelle les grandes anthologies impériales, cet ensemble-là avait un procédé de composition tout à fait extraordinaire dans lequel on faisait les poèmes de poèmes. Et donc il y avait une idée de progression dans des séquences, il y avait d'organisation dans les séquences. Et bon, et plus des idées de nature esthétique tout à fait passionnantes, jouant sur la présence nécessaire dans un ensemble de compositions de poèmes, de choses qui vont être des poèmes relativement médiocres, à côté des poèmes que l'on considérera comme les meilleurs. Éviter l'effort à l'excellence perpétuelle qui est la grande plaie des anthologies en général, de ne faire que des belles choses. Faire que des belles choses, c'est finalement ne rien faire de bien. Et donc ce jeu-là était tout à fait intéressant et qui, au fond, c'est un procédé esthétique qui, vu dans un domaine très légèrement différent, ou dans une visée très légèrement différente, correspond bien à une des remarques que j'ai retenues de Raymond Queneau, qui disait, je l'ai entendu plusieurs fois le dire, il n'y a pas que l'art, il y a la rigolade. Un temps, il n'y a pas que la rigolade, il y a l'art. Donc le fait de jouer sur plusieurs registres, à la fois du point de vue esthétique et du point de vue de la composition.
Un des principaux travaux de Change aussi, qui d'ailleurs est assez parallèle à ce qui se passait dans la revue Action Poétique, qui était beaucoup plus ancienne, était la traduction de poésie de langue étrangère, poésie ancienne éventuellement, ou contemporaine. Il y a la traduction des grands poètes américains, et, autant que russes ou d'autres pays. Et c'est pour les lecteurs une série de découvertes extrêmement importantes. Vous-même, vous avez traduit les livres de Reznikov, notamment, qu'on ne connaissait pas, et qui apparaissent presque d'ailleurs comme précurseurs de tout ce qui se passe maintenant.
Dans cette fin des années 60 et début des années 70, un certain nombre de poètes français découvrent véritablement la poésie contemporaine des États-Unis. Découvrir la poésie contemporaine des États-Unis, c'est découvrir plusieurs choses. D'une part, ça n'apparaît pas spécialement dans Change, mais ça apparaît dans la pratique des poètes qui ont participé à cette entreprise, que l'existence orale de la poésie est fondamentale. Dans la poésie indienne des Indiens d'Amérique, par exemple, tel que l'avait s'efforcé de la restituer Jerome Rothenberg, donc ça c'est une chose très importante. Et puis la poésie contemporaine qui existe dans la voix et qui renouvelle complètement la poésie, une poésie américaine qui s'était un peu figée dans l'académisme. Tout ça c'est un choc très très fort que, par exemple, le groupe Change découvre après un voyage après des voyages faits aux États-Unis, soit par Mitsurona, soit par moi-même, soit par Jean-Pierre Fay, et découvrir l'importance considérable et la variété énorme de cette poésie, ça a été vraiment un grand choc, et tout à fait passionnant. Donc, que faire avec ça? D'une part, reconnaître cette dimension, et d'autre part, traduire, faire connaître. Donc la nécessité de la traduction s'est imposée, liée également à la réflexion sur la nature de l'opération de poésie ou sur de l'opération linguistique en général, avec une situation centrale de la traduction. C'est une théorie de la traduction. Et donc, on trouve des choses sur la théorie de la traduction chez les gens que, par ailleurs, on reconnaît dans la grande effervescence en Russie des années 20, avec notamment Polivanov, qui a été l'ami de Jacobson. Donc, ces choses-là sont assez liées.
Ce sont des mouvements, d'ailleurs, aux États-Unis très importants, mais qui sont encore secrets. D'ailleurs, il me semble que vous avez traduit, par exemple, certains livres de Gertrude Stein, qui ne sont pas forcément parus. Je me demandais si How to Write, je crois que vous l'avez traduit, il me semble pas que c'est paru en livre, ou du moins c'est difficile
en France,
à trouver.
En tout cas. Non, maintenant, bon, disons que la découverte pour nous de la poésie américaine, qui est au fond pas tellement éloignée de la découverte pour les poètes américains de leur propre poésie, a comme corollaire la recherche des précurseurs. Donc aux États-Unis, c'est la redécouverte des objectivistes, c'est-à-dire il n'y a pas que Pound, mais il y a aussi Zhukovsky, Oppen, Reznikov et Rakosi. Et puis il y a la grande figure totalement assez cachée de Gertrude Stein. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, Gertrude Stein trouve une grande place pour une raison évidente, qui est les progrès du mouvement féministe. Donc, il est normal que c'est quand même une grande figure de la poésie et de la prose qui n'est pas dans la tradition machiste. Donc, il est évident qu'on trouve toutes les œuvres de Gertrude aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, donc début des années 70, Gertrude Stein est pratiquement inconnue. Elle a été éliminée par une autre avant-garde, qui est celle de Joyce. Il y a eu une sorte de bataille à l'intérieur de l'avant-garde des années 20 qui s'est terminée par la défaite de Gertrude Stein.
Mais ce qui s'est amené dans votre poésie, notamment, mais pas que chez vous, parce que ça a eu une certaine faveur, enfin, et ça continue toujours aujourd'hui, c'est d'amener à un paradoxe d'ailleurs assez curieux, qui est d'arriver à une poésie minimaliste, répétitive, et en même temps extrêmement complexe, que l'on trouve d'ailleurs dans de nombreux poèmes chez vous, et qui peut apparaître d'ailleurs peut-être beaucoup plus dans une variante mélancolique que dans une recherche de la neutralité.
C'est probable. C'est probable. Pour moi, la leçon de Gertrude Stein, la possibilité de ce travail constant, explorant la façon dont on peut faire jouer entre eux, non pas des grandes figures ou des grands objets du vocabulaire, mais au contraire les petits mots, hein, les articles, la façon dont elle réfléchit sur les signes de ponctuation, les articles, sur la notion même de phrase. Que faire avec la phrase? Comment faire une phrase de prose qui soit véritablement quelque chose qui n'est pas la phrase de la langue, enfin, de l'emploi ordinaire, de l'emploi médiocre? Et construire donc une prose à l'aide de phrases et de paragraphes. Toutes ces réflexions-là qu'on trouve dans le livre fondamental qui est How to Write, et comment écrire, et dans d'autres textes de Gertrude de la fin des années 20 et début des années 30, toutes ces choses-là, pour moi, ont été très importantes comme, à la fois comme réflexion, mais aussi comme stimulation dans la composition. Mais, très curieusement, ça passe à travers la rencontre de la poésie indienne, qui finalement a un élément mélancolique en soi, puisqu'il s'agit de langues et de manières de s'exprimer qui sont quasiment disparues sur le territoire des États-Unis. Et c'est une parenté très très frappante avec la poésie japonaise ancienne. Donc je vois une espèce de constellation pour moi qui est très importante, qui est Gertrude Stein, la poésie indienne des Indiens d'Amérique, avec son caractère oral et son caractère mélancolique, et la poésie japonaise.
On en trouve d'ailleurs, je pense, des échos dans votre livre qui s'appelle « D'or », précédé d'ailleurs de « Dire la poésie », qui rejoint à la fois un certain style de paroles rythmées poétiquement, je ne sais pas comment dire, puisque au fond on est très proche de la parole, tout en étant dans quelque chose de compté, de mesuré. C'est quelque chose que vous recherchiez à cette époque et qui pourrait rejoindre certains des grands poètes américains qui sont aussi des personnes qui vivent physiquement leur poésie. Parce qu'en France, on n'a pas une grande tradition, il y en a un petit peu de lecture poétique, alors que je crois que là-bas, c'est beaucoup plus vif.
Bon, disons que depuis au moins presque une vingtaine d'années, la tradition de lecture poétique s'est beaucoup répandue en France, à mon avis de manière plus inventive aujourd'hui qu'elle ne l'est aux États-Unis, où elle a tendance à se figer un petit peu. Pas vraiment, mais elle a tendance un peu à se figer dans l'académisme. Mais dans la grande période qui est celle des années 50, 60 et début des années 70, la tradition de la diction de la poésie est fondamentale. Et dans le livre dont vous parlez, D'or précédé de dire la poésie, il y a ces deux aspects, au fond, sont un peu utilisés par moi. D'une part, de la composition formellement très stricte mais minimale, hein, ce dont on parlait à l'instant, avec peu de mots, qui varient, qui bougent beaucoup tout en étant les mêmes mots, avec des dispositions différentes dans la voix et dans la page. Et puis d'autre part, quelque chose qui est une prose orale qui s'appelle Dire la poésie, dans laquelle je réfléchis en composant un texte poétique sur qu'est-ce que c'est que dire la poésie par la voix, porter la poésie par la voix. Et ça, l'influence là est évidemment celle de Gertrude Stein, mais par ailleurs aussi l'influence d'un poète américain qui m'a beaucoup frappé et dont j'ai traduit des textes et j'ai participé à des traductions d'autres textes de lui, qui s'appelle David Antin. Parce que David Antin est un improvisateur. Et ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Je regrette de ne pas avoir découvert la possibilité de composer de cette façon quand j'étais plus jeune, parce que je n'arrive pas, moi, à improviser. Mais donc là, portée par une poésie qui va être qui n'est pas de la poésie orale traditionnelle avec peu de mots, qui est une poésie discursive qui raconte en même temps, mais qui est portée par la voix et qui est en grande partie improvisée.
Mais est-ce que la volonté de se créer des contraintes et donc de composer de la poésie avec des contraintes n'est pas une manière au fond de se donner des possibilités d'improviser?
Il est clair que si vous démarrez à partir de contraintes qui ne soient pas des contraintes trop violentes, hein, c'est-à-dire qui ne paralysent pas en un sens en ne permettant que la composition d'un très tout petit nombre de textes. Si c'est une contrainte qui n'est pas non plus trop lâche, pas trop sévère, ni trop lâche, et qui a donc un pouvoir de potentialité, hein, c'est ce que recherche l'Oulipo, voire de littérature potentielle, un pouvoir de potentialité, la possibilité de composer de façon assez étendue. Quand vous faites ça, une fois le travail préparatoire de se reconnaître dans la manière de traiter la contrainte, de ne pas être paralysé par l'impossibilité de trouver des mots ou des phrases ou des vers, quand vous avez une situation de ce genre, alors, il est clair que vous pouvez improviser. On peut improviser dans une contrainte. D'ailleurs, l'exemple, évidemment, le plus frappant, c'est celui de Georges Perec, qui, quand il avait vraiment maîtrisé complètement une contrainte, était capable d'improviser, même oralement, dans cette contrainte.
Alors, Jacques Roubaud, revenons un instant sur Change, qu'on n'a pas complètement quitté, puisque dans Change ont été publiées donc vos traductions, par exemple, de poèmes de Spicer et bien d'autres choses, hein, de poètes hispano-américains et d'autres encore. Il y a ce fameux numéro, le premier, je crois, que vous avez conçu complètement, qui s'appelait La poétique, la mémoire, et qui emploie ce mot mémoire qui va tant compter par la suite, et nous y reviendrons, je pense, dans une émission entière. Comment ça se fait que cet élan absolument assez fort, enfin, qu'il y a eu à la fin des années 60 et au début des années 70, a l'air d'avoir accouché, je n'allais pas dire sur rien, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains et de personnes qui sont sortis de cette aventure et beaucoup d'œuvres qui restent, mais que tout ça est parti, a disparu presque comme un fantôme, on n'en parle plus. Vous me disiez qu'on a écrit une histoire de telle quelle, on a écrit une histoire d'action politique et personne ne fait l'histoire de change. Qu'est-ce qui s'est passé ?
À vrai dire, c'est difficile de répondre à cette question. Si on regarde les choses de manière générale, à une exception près qui est tout à fait paradoxale mais très intéressante, qui est l'Oulipo, puisque l'Oulipo a été fondé en 1960 et qu'en l'an 2000 est toujours extrêmement actif, à une exception près, un mouvement de nature littéraire organisé autour d'une revue et d'une publication. Avec une composition dans laquelle il y a quand même quelqu'un qui est à la barre. Dans le cas de Champs, c'était Jean-Pierre Faye, et disons, dans le cas tel quel, c'est Philippe Solaire, c'est dans le cas de la Pléiade, c'est Ronsard. Bon, dans des situations de ce genre, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une sorte de ce que les historiens... De la philosophie politique appelle le moment machiavélien. Vous avez un moment particulier dans lequel quelque chose qui va être fait rencontre, disons, une sorte d'enthousiasme dans ceux qui le font et dans ceux qui le reçoivent et qui mettent sur le marché, qui mettent devant les lecteurs et les auditeurs même des choses nouvelles qui n'ont pas été vues. Mais après... Après, ça s'épuise, parce que ce n'est pas la même chose qu'une découverte scientifique qui demande dans son exploitation, au contraire, de très longs prolongements. Et même dans le cas des découvertes scientifiques, on peut dire que cet épuisement existe aussi, et qu'après, on ne fait que continuer à explorer dans les mêmes choses. Et ça ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas durer très longtemps. Et si ça se survit, d'une façon, en général, qui n'est pas très favorable.
Vous faites pourtant toujours partie de comités de certaines revues, Action Poétique, qui existent depuis bien plus longtemps. Peut-être vous n'êtes pas très actif à l'intérieur de la revue, comme ça pouvait être le cas dans Change. Je pense que vous êtes toujours dans le comité de rédaction de la revue Poésie, dirigé par Michel Deguy, et puis sans doute d'autres. Et là, ça a l'air de se passer pas si mal, et en tous les cas, d'avoir une continuité. Alors pourquoi certaines revues continuent ?
Disons que les revues qui sont liées à des mouvements d'avant-garde, dont l'ambition est très vaste, hein. À la fois outils conceptuels, intervention dans le champ littéraire, intervention dans le champ poétique, traduction, mise en évidence de choses nouvelles, hein, cela... Ils ont un moment, et ce moment, il est relativement court. Hein, il est relativement court. Ça n'a jamais été vraiment l'ambition de la revue Action Poétique. Ce que fait la revue Action Poétique, et je pense qu'elle fait très bien, c'est pour ça que j'y participe toujours, elle le fait plus ou moins bien selon les moments, mais elle le fait, c'est-à-dire donner la possibilité à des gens qui commencent à écrire de la poésie d'être publiés. Hein, donc c'est plutôt un état de découverte, hein, une situation de découverte dans laquelle il n'y a pas de théorie d'ensemble, hein, pour reprendre le terme de tel quel. Il n'y a pas non plus l'accent mis sur un nombre limité de choses qu'il y avait dans Change, hein, une certaine conception de la narration représentée par certains narrateurs, certains compositeurs de fiction comme Jean-Claude Montel, Paul Lurossi, ou alors des outils conceptuels linguistiques que représentait dans Change Missourna, ou la théorie de la traduction avec Léon Robel, des choses comme ça, mais ça, qui sont très très centrées, très particulières, qui ne vont pas accueillir d'autres choses. Quelqu'un qui veut publier ne va pas s'adresser forcément à une revue comme ça ou à telle qu'elle, parce qu'on a l'impression que c'est concentré mais relativement étroit. En revanche, c'est pas la chose qui se passe avec Action Poétique. Le cas de la revue Poésie est différent. La poésie est née dans l'idée de, je pense, pas trahir l'intention initiale de Michel Deguy, dans l'idée de, au fond, de créer une revue dans laquelle on réagissait à la solitude de la poésie. D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses livres, La poésie n'est pas seule. L'idée qu'il pouvait y avoir essentiellement la poésie, poésie sous forme de publication de poèmes par des poètes contemporains, avec traduction, beaucoup de traduction, mais également le rapport à la philosophie, par exemple, qui est extrêmement présente dans la revue Poésie. Donc, ce n'est pas du tout un mouvement d'avant-garde.
Hein. D'ailleurs, j'avais l'impression que la philosophie avait gagné du terrain dans l'entourage de la poésie par rapport à cette époque de change où c'était plutôt, en apparence du moins pour les lecteurs, la linguistique ou même à la limite la sociologie parfois.
Ou la science. Oui, il est probable que un certain rapport dans la génération qui suit, même s'il s'agit de gens qui ont commencé à composer avant, hein, je parle dans la génération de publication, la génération de revues ou de publication de livres qui vient après le moment de après les moments de l'avant-garde et au fond leur disparition est aussi liée à l'évolution politique, hein, bon, il faut bien le dire. Donc, dans une situation de ce genre, qui est la situation des années 80 et après, est senti très, très nettement qu'il y a une possibilité de passer, de dialoguer, éventuellement de passer, de s'inspirer des modes d'expression philosophique. Ça, c'est très clair chez beaucoup de poètes qui écrivent dans ces années-là.
Et là, il y a un nom qui apparaît et qui a une grande faveur, c'est Wittgenstein.
Je ne pense pas que ça soit vraiment dominant, hein, Wittgenstein.
Du moins, chez certains de vos amis, vous-même.
Oui. Bon, moi, je suis plus... je suis assez proche de la manière de c'est pas vraiment un problème de choix de théorie de théorie philosophique. Hein. Y a la façon dont les poètes abordent les philosophes fait certainement généralement hurler peut faire hurler les philosophes et à juste titre.
Mais c'est peut-être intéressant d'ailleurs de les faire hurler, non?
Oui, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, un poète qui va aller chercher dans des textes philosophiques ou dans des idées philosophiques qu'il va extraire de ses lectures, quelque chose qu'il va utiliser dans sa poésie, est une idée d'appropriation, c'est clair. Ils vont s'approprier une certaine manière de dire et qui, très souvent, peut s'accompagner de contresens énormes sur le sens du discours philosophique lui-même. Hein. Ça peut être très ça. Alors, moi, mon intérêt pour Wittgenstein, je ne prétends pas que ma compréhension de la pensée de Wittgenstein soit de haut niveau. Mais il y a dans sa façon de suivre une idée dans ses carnets ou dans ses développements, que l'on voit de la suivre puis de l'interrompre, puis de la reprendre et d'avancer par petits bonds de cette façon, par petits bonds dont l'expression condensée est extrêmement frappante. Il y a quelque chose qui ressemble à la composition en kyriel, qui est une des manières de composer que je préfère. Marabout, bout de ficelle, il y a ça. Et donc, moi, je vais chercher c'est vrai d'ailleurs aussi bien de Wittgenstein que des néoplatoniciens ou d'autres philosophes.
D'ailleurs, on retrouve, pour qui a lu un petit peu Wittgenstein, sans forcément le comprendre, dans certains de vos poèmes, des quasi-citations, des détournements. Je me souviens, je crois, dans Quelque chose noir, d'une méditation de la certitude, je le dis de mémoire là, et qui reprend le début de la certitude de Wittgenstein, c'est pas un hasard.
Voilà, c'est cette manière irresponsable pour un philosophe de traiter la philosophie qui, moi, me paraît extrêmement productrice et fascinante et passionnante pour quelqu'un qui compose de la poésie. Et par exemple, c'est dans le cas de Wittgenstein, le poète américain dont j'ai parlé, qui est David Antin, qui est un poète improvisateur, était également quelqu'un qui a composé un livre qui s'appelle Meditations et qui est aussi fortement lié à Wittgenstein. Et il y a beaucoup de poètes américains utilisent Wittgenstein comme moi, hein, de cette façon-là. Mais les exemples sont nombreux. Hein.
«
C'était le troisième de 5 à voix nue de Jacques Roubaud au micro de Christian Rosset, diffusé pour la première fois le 3 mai 2000 sur France Culture et réalisé par Bruno Sourcy. À suivre.